L'orgueil. La définition de l'orgueil, telle qu'on peut lire dans un dictionnaire, nous dit ceci. Le sentiment exagéré de sa propre valeur. Sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est l'un des péchés capitaux. Et sept péchés capitaux. On pourrait décrire l'orgueilleux de cette façon. Il se sent irremplaçable. Il se prétend le nombril du monde. Il a tout vu, tout entendu, tout essayé. L'orgueilleux ne manque aucune occasion de parader devant ses semblables. Lors d'un festin, il s'empresse de faire le genre devant la galerie. Il se vante et se flatte le bedon. Il proclame haut et fort ses exploits. Il aime étaler sa suffisance et sa fierté sur la place publique. Vous allez me dire, c'est très négatif. Oui, l'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur. L'orgueilleux est celui qui a toujours mieux fait que les autres, celui qui sait mieux s'y prendre pour le faire, pour le réussir, celui qui aime proclamer devant les autres qu'il a fait telle chose, telle chose, telle chose, une énumération de ses bons coups. C'est tout le temps un peu comme ça. L'orgueilleux est centré sur lui-même, il n'est pas centré sur les autres. Et des fois, ça lui joue beaucoup de tours. Le remède, c'est de valeur à dire, mais ils disent dans la première lecture, la condition de l'orgueilleux est sans remède. C'est un peu décourageant. On n'est pas capable de s'améliorer quand on est orgueilleux. Elle est sans remède, car la racine du mal est en lui. Dieu confond les prétentieux. Il disperse les superbes à la pensée orgueilleuse et il jette les puissants à bas de leur trône. Alors, en plus d'être un peu un sentiment exagéré de sa propre valeur, les remèdes sont très, 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 très petits. Pas de grande chance de guérir de l'orgueil. Ça doit demander une sorte de coup de barre là, très fort pour dire « Bon, ben là, je change complètement ma façon d'agir, ma façon de parler, ma façon de me prononcer, ma façon d'être devant les autres, etc. » C'est tout un contrat. L'orgueilleux, sa condition est sans remède. Jésus, lui, il privilégie les petits, les faibles, les affligés, les cœurs purs. Par exemple, il fait l'éloge de la pauvre veuve qui vient déposer ses deux petites piécettes dans le trésor du temple. Et Jésus dit à ses apôtres, cette veuve, elle a donné deux petites cents de rien, mais elle en aurait eu besoin pour vivre. Et il fait l'éloge de cette veuve. Il dit, cette veuve, elle est très, très généreuse, très grande. Elle a le cœur pur. Il se réjouit du lépreux qui vient le remercier après sa guérison. Il était 10. Ils ont tous été guéris. Il y en a un seulement qui vient le remercier. Il félicite Zachée qui se convertit et répare tout de go le mal qu'il a fait à ses concitoyens. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Alors Zachée, collecteur d'impôts dans le village, et il n'est pas aimé parce qu'il est un petit peu pas voleur, mais quasiment. Puis les gens ne l'aiment pas. De toute façon, hein, quand c'est l'impôt, c'est rare qu'on aime bien les gens qui font valoir ces lois-là sur l'impôt. On est toujours un petit peu craintif, qu'ils fouillent trop dans nos affaires. Alors Zachée, il est conscient qu'il a fait du mal. Il a exploité les autres. Et il dit au Seigneur, je me tourne de bord, voilà. J'ai fait du mal, je vais remplacer ça par du bien. Ceux à qui j'ai fait du mal, je vais leur remettre la dette que je leur dois. Et Zachée se convertit. Jésus aussi accueille le bon larron repentant et lui assure une place dans son royaume. Donc l'humilité est complètement l'inverse de l'orgueil. Le mot humilité tire son origine du terme humus. Vous savez ce que c'est que l'humus? Hein? C'est du fumier que tu mets dans tes plantes pour produire des beaux concombres, des belles tomates, puis aussi des belles fleurs. L'humus vient toujours donner plus de force au sol. Alors, le terme humus, qui signifie sol, terre, argile, poussière. Notre cœur est un jardin qui requiert la meilleure des terres. L'engrais, l'humus qui le fertilisera, c'est l'humilité de notre cœur. Jésus nous conseille de ne pas rechercher les premières places quand nous nous attablons pour partager un festin. Celui qui a organisé le repas pourrait avoir invité des gens plus importants, et là nous risquerions alors de devoir laisser notre place à un personnage plus important, et nous irions plein de honte occuper la dernière place. Et Jésus nous met en garde d'une façon directe et précise, qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. C'est un premier conseil que Jésus nous donne. Vous essayerez ça une bonne fois. Quand vous serez invité à quelque part, au lieu d'aller proche, mettez-vous ailleurs, vous allez voir comment ça va réagir. Peut-être que ça ne tournera pas comme ça, je ne sais pas. C'est une expérience à faire. Jésus aussi nous conseille une autre chose. Quand tu donnes un repas, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents, tes riches voisins. Ces derniers t'inviteraient à leur tour et la politesse te serait rendue. Non. Quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Ils sont pauvres, ils sont démunis. Mais toi, tu vas être heureux dans le fond de ton cœur parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Et cela te sera rendu à la résurrection des justes. Alors, c'est pas perdu. C'est écrit à quelque part. Quelle sagesse dans ces propos de Jésus. L'important, c'est de les lire souvent, les relire, les méditer, les prier. Et l'important aussi, c'est de vivre ces messages au jour le jour, avec conviction et avec confiance. C'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père, du Fils,